qu'on appelle généralement la section des peintres. Et vous aurez remarqué, je vous l'ai dit d'ailleurs, je l'ai souligné, il s'agit beaucoup de pain, et il s'agit beaucoup de manger. Et donc c'est une réflexion sur ce que signifie manger. Manger, c'est s'assimiler, s'assimiler des réalités naturelles, souvent transformées, pour que nous puissions en vivre. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est toujours s'assimiler la richesse des autres, que les autres ont préparée. Et donc dans la nourriture, les autres sont toujours présents. Nous sommes beaucoup tributaires des autres. Sauf évidemment quand on mange des choses qui sortent comme ça de la nature tout à fait naturelle. Mais les choses naturelles sont généralement passées par le travail de nos frères et de nos sœurs. Et donc manger, ça signifie vraiment participer à une communauté de vie. Je ne puis manger, je ne puis me nourrir, je ne puis continuer d'exister que grâce aux autres. Et spécialement dans le pain et dans le vin, qui sont des nourritures qui viennent de la terre, mais qui sont transformées par le travail des hommes, fruit de la terre et du travail des hommes, comme nous disons, avec une ancienne formule de bénédiction du pain et du vin qui vient d'Israël, qui vient du judaïsme. Donc le pain et le vin symbolisent, le pain c'est une nourriture qui symbolise la femme, l'eau et le grain sont toujours des signes de fécondité de la femme, en tout cas dans le milieu sémitique. Le vin est une boisson d'homme. Vin signifie la force, et, ou bien même éventuellement la guerre, donc la puissance, la lutte. Donc nous avons l'homme, la femme, le pain et le vin demandent tout un travail de la nature, un an de travail de la nature, depuis le moment où le grain de blé entre en terre jusqu'au moment où le pain est sur la table, il y a un an de travail de la nature. Mais de la nature surveillée par les hommes. Et pour le vin, c'est pareil. Il y a aussi cette symbolique, hein, des grains qui sont broyés ensemble pour ne faire qu'un. Et qui sont l'image d'une société, d'une collectivité humaine qui partage les peines, les souffrances, le broiement et aussi la joie. Donc il y a toute cette réalité-là dont nous sommes moins sensibles aujourd'hui parce que nous regardons les choses de manière très matérielle, mais qui sont, en tout cas dans la Bible, qui sont encore des réalités très présentes. C'est toute l'humanité qui marche ensemble et qui se donne en nourriture les uns aux autres. Et ici nous avons pain et poisson. Et les poissons, ce sont bien sûr des animaux, c'est tout. Le domaine, ce n'est pas le domaine végétal, mais c'est le domaine animal qui est symbolisé par le poisson. Mais c'est la vie des gens du pays. La vie au bord du lac, ce symbole par pain et poisson. Donc c'est la vie des hommes qui est partagée. Donnez-leur vous-même à manger. Et quand nous travaillons pour nos frères et pour nos sœurs, nous leur donnons en quelque sorte à manger. Nous gagnons notre propre vie et nous nous mettons à leur disposition. Donc manger est vraiment quelque chose qui se fait ensemble. Et c'est une anomalie, dans un certain sens, de manger seul. Le vieux seigneur, là, qui mange tout seul, dans une grande table avec son majordome derrière lui. Hein? Cette image que nous avons du lore anglais, là. Hein? Ou bien le SDF, qui mange le pain qu'il a récolté sous son pont. Tout ce qui ne va pas là-dedans. C'est pourquoi manger, c'est c'est signifier, et partager son repas, c'est signifier que l'on veut établir et faire vivre des liens. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on se nourrit les uns les autres. Et donc, il y a toute une symbolique, pas seulement sociale, mais vraiment communautaire, dans le manger et le boire. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a pris ce qui était nourriture et boisson commune, le pain et le vin. Et donc, quand faisons ce geste, nous rappelons ce qu'a fait Jésus. Donc il y a une référence historique à Jésus qui est aussi importante. Manger du pain. Et donc le pain est aussi présent parce que, comme je vous le disais, à la fois nourriture naturelle, mais nourriture transformée par l'homme. Nature et culture. Et ce que nous mangeons ne peut pas nous souiller. Et Jésus passe évidemment d'une sorte de souillure extérieure, encore très formelle, à une souillure intérieure. Ce qui souille, c'est le mal qui sort de nous. La médisance, la calomnie, le mal que nous disons de nous-mêmes ou des autres. C'est tout ça qui souille l'homme. Et c'est ce que Jésus essaie de leur dire, de les faire passer de ce qui est une manière encore fort extérieure de vivre les choses, façade, comme je disais tout à l'heure, à une manière intérieure profonde. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, toujours le lieu de l'intériorité, de l'approfondissement, de l'intimité avec les disciples et Jésus, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur la parabole. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que nous mangeons qui nous souille, c'est ce qui sort de nous. Et il leur dit ainsi, vous aussi êtes-vous sans compréhension? Vous restez encore des matérialistes. Ne réalisez-vous pas que tout ce qui vient du dehors, pénétrant dans l'homme, ne peut le souiller. Il n'y a pas de mauvaise chose à manger, sauf si c'est du poison, bien sûr, et de bonnes choses. Et les Israélites, les bons Israélites de l'époque et encore aujourd'hui, se privent d'un certain nombre de nourritures possibles parce que c'est pas permis. En Israël, on ne fait pas ça. C'est impropre à ce que fait Israël. On dit toujours impur, mais il faudrait presque dire c'est impropre, on fait pas ça. On fait pas ça en Israël. On a des habitudes bien particulières. Ne réalisez-vous pas que tout ce qui vient du dehors, pénétrant dans l'homme, ne peut le souiller? Parce que cela ne pénètre pas dans le cœur. La nourriture extérieure ne pénètre pas dans le cœur, c'est-à-dire dans l'intériorité de la personne. Mais dans son ventre, et s'en va au lieu des sens. Donc c'est pas à cela qu'il faut faire attention. Mais il faut faire attention à ce qu'est le cœur, l'intériorité de l'homme. Il purifiait ainsi tous les aliments. Il disait, il n'y a pas des aliments purs et des aliments impurs, sur ce plan-là. Or, il disait, ce qui s'en va de l'homme, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui souille l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que s'en vont les desseins mauvais, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudence, envie, littéralement mauvais œil, blasphème, vanité, déraison. Tous ces mouvements qui font du mal naissent au fond dans notre cœur. La méchanceté vient de nous. Et nous avons tous à laisser purifier cette méchanceté intérieure. plutôt que de la laisser couler au-dehors et de souiller les eaux. Jésus passe d'un niveau très matériel, très extérieur, à un niveau très profond, très intérieur. Toutes ces choses méchantes s'en vont du dedans et elles souillent l'âme. Lorsque j'injurie mon frère, je me souille moi-même. Je laisse sortir de la méchanceté de moi et je fais du mal à l'autre et à moi. Donc ne vivez pas dans cet enfermement en vous-même, dit Jésus. Mais laissez ouvrir votre cœur. C'est pour ça d'ailleurs, ceci dit entre parenthèses, c'est pour ça d'ailleurs que tous ces mouvements intérieurs, ces colères, ces envies, ces sentiments de vengeance, ces sentiments de mort, qui sont en nous, nous en avons, et souvent ça revient dans nos rêves. C'est pour ça qu'on peut les transformer en prière. Et les psaumes viennent souvent avec tous ces sentiments. Vous avez pas mal de psaumes de vengeance. Ça veut dire qu'il faut laisser purifier tous ces sentiments qui sont en nous, au lieu de souiller les autres avec cela, mais de les remettre au Seigneur pour que lui les transforme. Il faut que nous soyons libérés de tout cela. Mais c'est pas en faisant du mal aux autres ou bien à nous-mêmes, que nous en serons vraiment libérés. C'est en donnant vraiment cela à Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de ces psaumes sont en fait des thérapies intérieures. Au lieu de remâcher mes sentiments mauvais, laissons-les s'épancher vers Dieu. Mais les donner en prière à Dieu, c'est les lâcher. C'est ne pas les retenir. Bon, souvent, nous voulons bien les laisser s'exhaler en prière, mais nous les retenons en même temps. Et nous continuons d'avoir un cœur mauvais. Et de penser, ou de vouloir, ou de dire du mal d'autres personnes ou de nous-mêmes. Ça vient au même. Au lieu de les faire passer en Dieu, c'est-à-dire de les laisser transformer. Ce qui est pur et impur, nous le comprenons souvent très mal. Vous voyez, dans la mentalité d'Israël, la manière de vivre d'Israël avec son Dieu en alliance, c'est cela qui est pureté. Parce que je vis en vérité, en alliance avec Dieu, qui est en quelque sorte mon partenaire, ou plutôt, qui m'a choisi comme son partenaire. Et donc, vivre de cette manière-là, c'est vivre dans la pureté. C'est-à-dire, dans la vérité, dans une vérité partagée, mutuelle, en quelque sorte. Et ça, c'est propre à Israël. Israël, qui adore le Dieu unique. Tandis que les païens sont tout à fait mélangés. Ils ne sont pas purs, les païens. Ils sont mélangés, ils ont des quantités de Dieu. C'est-à-dire, ils ont quantité de valeurs humaines qui en elles-mêmes sont bonnes, mais qu'ils absolutisent. La richesse, le plaisir, le confort, toutes sortes de choses à laquelle ils mettent pratiquement toute leur vie, au lieu de laisser Dieu exister, au milieu de tout cela, comme celui qui met de l'ordre dans tout cela. Dieu est souvent regardé comme le créateur, c'est-à-dire celui qui met de l'ordre dans notre chaos. Et donc, ce qui concerne la vie, c'est-à-dire vie-mort, naissance, c'est-à-dire sexualité, ce qui transmet la vie, c'est-à-dire nourriture, ce qui nourrit la vie, ce qui la fait exister, c'est-à-dire vêtements. Le vêtement, ça adhère, ça nous permet de vivre, ça adhère à la personne et ça exprime la personne. C'est-à-dire relation. Donc, Tout cela, c'est le domaine de la pureté ou de l'impureté. Manger sans avoir dit la bénédiction, c'est commettre une impureté. Vous ne rapportez plus la nourriture à Dieu. Vous faites comme un chien qui se jette sur sa nourriture. Non. Vous avez de la nourriture, elle vous est donnée, vous rendez grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Mais c'est intérieur, cela. Mais on l'exprime de manière extérieure, par bénédicité. Donc tous ces gestes scandent la vie du juif et lui permettent de mettre sans cesse cette présence de Dieu au cœur de sa vie. Dans tout ce qui est lié à la vie. Alors il faut protéger cette vie avec Dieu. Et on le protège en donnant un certain nombre de règles de pureté. Ce sont des règles qui se donnent à l'intérieur d'Israël pour protéger la vie et le rapport de la vie à Dieu. Et donc en Israël, on mange un certain nombre de choses et on ne mange pas les autres. C'est commun aux autres nations. Et de fait, Saint-Luc a très bien compris cela, parce que le terme que l'on traduit généralement par impur, il le traduit par koinos, c'est-à-dire commun. C'est commun à tous les autres. Tandis que ce qui est pur, c'est ce qui est propre à Israël et à sa relation avec Dieu. Et donc, ça concerne tous les domaines de la vie. Un mort, c'est impur. Un cadavre. Parce qu'il ne signifie plus la vie. Il n'est plus l'expression de vie. Donc il faut, en quelque sorte, le cacher, le remettre en terre. Et donc, on ne va pas toucher un cadavre. Parce que c'est comme si on avait partie liée avec la mort. Et oui, c'est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Mais pour être sûr que ce soit intérieur, on le protège, en quelque sorte. C'est ça qu'on met, je vous disais tout à l'heure, mettre une haie à la Torah. On le protège en quelque sorte en donnant une loi, une règle extérieure. Hein, c'est ainsi que le prêtre ou le lévite qui trouve un homme à demi mort sur le bord du chemin, ils peuvent pas le toucher. Ce serait contracter une impureté et pas pouvoir faire leur service dans le temple. Et alors, c'est Dieu, service du temps, ou c'est le prochain? Et ça fait une distorsion dans le cœur. Et c'est pourquoi, donc, toutes les règles commandant la naissance, la mort, la sexualité, tout cela, la nourriture, la préparation de la nourriture, tout ça s'est mis tout à fait au point. Dans non pas seulement la loi va dans les grandes lignes, mais les traditions des anciens vont dans les petits détails. Je prends encore un autre exemple. Une femme a ses règles. Elle est impure. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est impropre à tout autre travail. Car avoir des règles, c'est ressentir en soi la présence de Dieu, c'est lui qui donne la vie. Et les règles, comme le sang d'ailleurs, symbolisent la présence de Dieu, donc de la vie qui coule. Et donc, elle va être impropre à faire autre chose que d'être occupée à cette réalité-là. Elle est proche de Dieu. Une femme met au monde un enfant, elle est impure. Ça ne veut pas dire qu'elle est souillée, on traduit parfois comme cela. Mais ça veut dire qu'elle est impropre à faire toute autre chose. Elle est en retraite, cette femme. Elle est en prière. Et il lui faut un certain temps, pour un garçon moins que pour une fille, il faut plus de temps pour une fille, ça va voir tout de suite pourquoi, il faut un certain temps qu'elle demeure dans cette présence divine, qu'elle fasse retraite. Autrefois, il y avait la bénédiction des relevailles. Hein? Bon. Pourquoi plus de temps pour une fille? Mais parce qu'une fille sera elle-même porteuse d'un enfant. Et donc il faut dès le départ
la mettre dans cette perception-là d'être une donatrice de vie. C'est extrêmement profond si on va regarder la valeur mystique de toutes ces pratiques extérieures. Mais souvent, même dans le judaïsme, vous savez, beaucoup de femmes et d'hommes ne savent plus cette réalité profonde intérieure, et alors ils font scrupuleusement ce qui leur est commandé par les traditions des anciens, mais qui sont coupés de la racine. Parce que c'est Dieu qui est en route dans tout cela. Et comme je vous le disais, c'est ça que la femme ne doit pas, n'est pas obligée comme les hommes, si on peut parler d'obligation, toujours une obligation libre hein, en Israël. La femme n'est pas obligée d'aller à la synagogue le jour du Shabbat, puisqu'elle est constamment en présence de Dieu. Tandis que l'homme, qui oublie son Dieu parce qu'il est en chemin, il fait des tractations, du commerce, etc. Bon, on lui dit, hé mon petit ami là, hein, Shabbat à la synagogue. Hein. Remplis-toi un peu de cette présence de Dieu que tu oublies trop souvent. Et donc, Jésus, en parlant comme il le fait, restaure en fait cette pureté intérieure, et la pureté, je vous le disais, c'est d'être en relation de vérité et de liberté, et avec Dieu, et avec soi-même, et avec ses semblables. Mais donc, il n'y a aucune valeur dans ce pureté-impureté, aucune valeur morale. Il ne s'agit pas de réalité morale. Il s'agit de faire ou de ne pas faire ce qu'on fait en Israël et ce que ne font pas les autres nations. Parce qu'ils oublient Dieu. Et donc, la kashrout, comme on l'appelle, c'est-à-dire manger kasher, donc manger comme il convient, kasher veut dire ce qui convient de faire, la kashrout, c'est la protection de cette présence de l'homme à Dieu. Et alors, évidemment, hein, on vous raconte toutes sortes de petites histoires, dans le Talmud ou dans le Midrash, hein, on dit par exemple, hein, comme si les lois existaient déjà à l'époque, hein, que quand le petit Moïse était là dans sa berce, hein, sur le Nil, hein, dans sa petite, son petit berceau sur le Nil, sur son panier, hein, et qu'on le découvre, et la fille de Pharaon qui le découvre, païenne, hein, la fille de Pharaon, bien entendu. Ce petit bébé a faim, évidemment. Hein. Et alors, elle cherche dans son entourage, dans ses suivantes, hein, une nourrice pour ce petit, et elle trouve une ou l'autre qui allait, enfin. Mais le petit Moïse refuse, hein, parce que celui-là n'est pas caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu ne boiras pas du lait étranger. C'est-à-dire, tu n'iras pas chercher à l'étranger, chez les païens, le sens de ta vie. Le sens de ta vie t'est donné par Dieu, et pas par les faux dieux des païens. Il y a toute une réflexion profonde qui est là en dessous. Mais on peut ne rester qu'à l'extériorité de l'histoire, de la petite histoire. Au lieu, bon, une bête légende. Non, c'est pas une bête légende. C'est un sens de cette présence de Dieu. Mais, Jésus le dit bien, faites attention. Ne ravalez pas la façade alors que l'intérieur n'est pas d'accord. Or, se levant de là, je continue, il s'éloigna vers la région de Tyr. Tiens, Tyr, c'est un pays païen, ça. Hein? Et Tyr, c'est pas n'importe quel pays païen, c'est le pays de l'orgueil. L'Égypte symbolise l'esclavage, mais Tyr symbolise l'orgueil. Le roi de Tyr, là, c'est celui qui veut se faire le grand homme, l'orgueilleux par excellence. Et, étant entré dans une maison, donc il va dans le pays de Tyr, c'est-à-dire un pays païen, il entre dans une maison, c'est-à-dire dans l'intériorité des gens, dans l'intimité. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester païen. Ne plus rester caché, pardon, excusez-moi. Terme païen qui était dans ma tête. Ne plus rester caché. Ça veut dire que même sa réputation s'en va jusque-là. Elle dépasse les frontières d'Israël. Mais aussitôt, tiens, même là, aussitôt, vous savez, il était déjà allé à la Décapole, là, et il avait chassé les démons qui étaient entrés dans les ports. Mais aussitôt, ayant entendu parler à son sujet, ce sont les mêmes mots qui sont utilisés pour la belle-mère de Pierre, une femme dont la fillette, il y a femme et fillette, de nouveau, vous pouvez retrouver, femme et fillette, dont la fillette avait un esprit impur, étant venue, tomba devant lui à ses pieds. Or la femme était grecque, païenne, syrophénicienne de race. Donc c'est pas du tout une israélite, hein. Donc c'est pas caché, ça y est. Et elle le questionnait afin qu'il chasse le démon de sa fille. Et lui disait, bon, laisse d'abord les enfants se rassasier, quand il n'est pas beau, de prendre le pain des enfants, la nourriture des enfants, et de la jeter aux petits chiens. C'est ainsi qu'on appelait les païens, les petits chiens. Et l'expression était passée aussi chez les Arabes, qui disaient, hein, chien de Roumi. Roumi, c'est de Romain, hein, de chrétien. Vous voyez, on se rend les injures. Celle-ci répondit et lui dit, mais Seigneur, les petits chiens aussi de sous la table mangent, et manger, pain, mangent les miettes des petits-enfants. Vous vous rappelez qu'il y avait du reste lorsqu'on avait multiplié les pains. Il y avait du reste. Pour qui est le reste? Pas pour les autres. Mangent des miettes des petits-enfants. Et il lui dit, en raison de cette parole, pars. Le démon est sorti de ta fille. Tu as bien compris que je suis pour tout un chacun. Et qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Mais tout est purifié. Parce que moi, je purifie tout. Et s'étant éloignée vers sa maison, elle y trouva la petite enfant étendue sur son lit et le démon sorti. Mais Jésus est purificateur aussi pour les nations. Et d'un côté, dans la Décapole, et de l'autre côté, donc à l'est, et de l'autre côté, à l'ouest, à Tyr et à Sidon. Et de nouveau, sortant des régions de Tyr, il vint par Sidon, aussi païen, vers la mer de Galilée et revient. On dirait qu'il n'a fait qu'un aller-retour, comme s'il avait était spécialement en pays païen, au milieu des régions de la Décapole. Et comme s'il y ait, l'est à l'ouest, deux pays païens. Donc il n'y a plus de pureté autour d'Israël et d'impureté en dehors, il y a maintenant une humanité qui est ouverte à la présence de Dieu en Jésus. Et on lui amène un sourd et bègue, sourd-muet. Et on le supplie pour qu'il lui impose les mains. Et l'ayant pris à part de la foule, à l'écart, il mit ses doigts dans ses oreilles, et ayant pris de la salive, il toucha sa langue. C'était une manière aussi, la salive, hein, c'était une manière aussi pour les rebouteux de village de guérir pour certaines blessures. Et ayant levé le regard vers le ciel, il soupira et dit « Eftach hein, ». En traduction, « Ephata »,« Eftach ». Ouvre-toi. Et aussitôt s'ouvrirent ses oreilles et le lien de sa langue fut délié. Et il parlait correctement. Et il le recommanda, afin qu'il ne le dise à personne. Or, plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Et il disait, et si je traduis littéralement, très excessivement saisi de surprise, en disant, il a bien fait toutes choses, il fait même entendre les sourds et parler les sans-parole. Ce qui est impossible à l'homme, lui peut le réaliser. Il peut même arriver à, il peut même réaliser de nous faire entendre la parole alors que nous avons les oreilles bouchées. Entendre, qui a des oreilles pour entendre. Il est capable de nous ouvrir les oreilles, donc de nous ouvrir le cœur. Et en ces jours-là, comme de nouveau était nombreuse la foule, et qu'il n'avait pas de quoi manger, on se retrouve avec la même difficulté, ayant appelé auprès de lui les disciples, il leur dit, cette fois-ci c'est lui qui prend les devants, ce ne sont pas les disciples, « Je suis ému de compassion sur la foule, parce que voici déjà 3 jours qu'ils demeurent auprès de moi et qu'ils n'ont pas de quoi manger. » Donc il leur partage cette fois-ci sa sollicitude pour ceux qui n'ont pas de nourriture. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, bah, ils vont défaillir en chemin. Mais quelques-uns d'entre eux sont venus de très loin. Ah, le mot très loin, quand on vient de très loin, c'est-à-dire qu'on vient du pays païen. Une manière de dire les choses. Les proches, ce sont les juifs. Et ceux qui viennent de loin, ce sont les païens. Vous avez la même chose dans les Actes des Apôtres. Beaucoup sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, « Ben, d'où quelqu'un pourrait-il rassasier ceux-ci de pain, ici, dans un désert ?» Pourtant, ils devaient avoir l'habitude. Hein ? Et, en tout cas, ils ont déjà eu un premier aperçu des choses. Ça allait bien. Et ici, on dirait qu'ils n'ont rien appris. Comme nous, hein. C'est difficile, hein, d'avoir une véritable expérience. D'où quelqu'un pourrait-il rassasier ceux-ci de pain, ici dans un désert? Ça va pas. Et il les questionnait, de nouveau. Il recommence, un petit jeu. Hein, puisque l'apprentissage n'a pas pris, on recommence. Combien avez-vous de pain? Ceci dire 7. Ah tiens, ce n'est plus 5. 5, c'est le chiffre de l'action divine. Hein. Il y a 5 livres de la Torah, il y a 5 livres dans les psaumes. Dieu n'a qu'une seule main. Il agit. Il n'en a pas, je sais bien. Enfin, c'est une manière de parler. Quand Dieu agit, il agit par ses 5 doigts. 5. 7. Ah, ça, 7, c'est 3 plus 4. 3, c'est le chiffre de l'homme, parce que l'homme est relation à Dieu, relation à soi et relation à autrui, ça fait 3. Et 4, ce sont les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est-à-dire le monde. L'homme dans le monde, c'est 7. Ça, c'est le chiffre du païen. 7, 3 plus 4. Tandis que le chiffre d'Israël, c'est 3 fois 4, 12. On avait vu qu'il restait 12 couffins. Maintenant, il n'y a plus 5 pains et 2 poissons, il y a 7. Et il donne comme directive à la foule de s'allonger sur la terre. Même jeu, hein, même petit scénario. Et prenant les 7 pains, rendant grâce, il les rompit et les donnait à ses disciples afin qu'ils les distribuent. Voilà, c'est le même scénario, on recommence. Oui, mais cette fois-ci, on est en territoire païen. L'autre fois, on était de l'autre côté du lac, en territoire juif. Maintenant, on est en territoire païen. Ce qui vaut pour les juifs, vaut aussi pour les païens. Et dans la communauté primitive, de l'église primitive, il y avait des chrétiens venus du judaïsme et des chrétiens venus du paganisme. Et il fallait faire bon ménage ensemble, ce qui n'était pas facile. Parce qu'il y en avait qui mangeaient cachet, et les autres pas. Il y en avait qui arrivaient avec leur petit pain au jambon-beurre, et les autres, pain sec. éventuellement avec un œuf. C'est pas pareil. On pouvait pas partager. Cacher, pas cacher, vous voyez? Pur, impur. Mais il y a tout ça derrière, hein. C'est tout ce milieu d'église primitive où il n'y a qu'une Eucharistie pour les uns comme pour les autres. Mais comme c'était le fait de l'église primitive, il fallait qu'on montre dans l'évangile que ça remontait à Jésus. Et que c'est Jésus qui avait initié le mouvement. Et donc, s'il se donnait à manger à travers les disciples aux Juifs, il se donnait à manger à travers les disciples aux païens, les uns et les autres devenant chrétiens. Il n'y a que Jésus qui puisse faire l'unité en nourrissant les uns et les autres, sans qu'il n'y ait plus de purs d'un côté et les impurs de l'autre. Il déclarait purs tous les aliments. Eh bien, comme dans les Actes des Apôtres, ne dis pas souillé, ne dis pas impur ce que Dieu a purifié. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Et les bénissant, il dit de les distribuer aussi. Et ils mangeaient, et ils furent rassasiés. Et ils enlevèrent l'excédent des morceaux, 7 paniers. Nous ne sommes plus en Israël c'était 12. En territoire païen, c'est 7 évidemment. Et il se trouvait environ 4000. 4000, c'est l'universalité, 4 fois 1000. Tandis que, en Israël, c'est 5 fois 1000. Normal. Tous ces chiffres sont symboliques, évidemment. Mais ça nous dit quelque chose de profond. Et il les renvoya. Et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans les territoires de Dalmanutha. On ne sait pas où c'est. Mais actuellement, on a mis Dalmanutha, hein, à côté de Tabga. On a mis le mot Dalmanutha à côté de Tabga. Tabga, c'est l'endroit de la multiplication des pains, actuellement, tout près du lac. Et les pharisiens sortirent et commencèrent à discuter avec lui. Ce sont les pharisiens qui, dans l'église primitive, se mettaient à discuter avec les chrétiens, hein, qui se retrouvent ici. En cherchant de sa part un signe venant du ciel, en le mettant à l'épreuve. Faudrait bien quand même qu'on sache quel est l'esprit qui est en lui, hein. Et poussa un soupir en son esprit. Il dit, pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? En vérité, je vous dis, certes, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Pourquoi voulez-vous autre chose que ce que je vous donne? Je suis moi-même le signe. Vous n'avez pas besoin de plus quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire chercher un signe? Jésus est le signe par excellence. Et il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de mieux. Et donc chercher un signe, c'est-à-dire comme si on voulait une certitude pour soi, au lieu de le recevoir comme la certitude. C'est toujours le même mouvement. Vous allez le retrouver tout le temps. Nous voulons prendre au lieu de nous laisser ouvrir. Saisir au lieu d'être saisi. Les laissant, il monta de nouveau en barque. Vous voyez, ça, tout le temps des va-et-vient, hein. D'un côté du lac ou l'autre. C'est-à-dire, on est autour du lac de Tibériade, c'est-à-dire qu'on est dans la vie des gens du pays. Il s'éloigna vers l'autre rive. Les gens du pays, hein, font ça constamment. Et attention, ils avaient oublié de prendre des pains. Pas beaucoup de pain, hein? Vous commencez à voir que dans ces pains, il y a toutes les sécurités. Le pain, c'est cette sécurité sur laquelle nous voulons mettre la main. Nous voulons être sûrs, vous voyez. Nous voulons contrôler. Et il n'en avait pas avec eux dans la barque, sinon un unique pain. Vous avez compris? Il n'y avait pas de pain, au pluriel. Ils en avaient un. Et Jésus lui-même. Nous cherchons une quantité de nourriture, des choses de sécurité, et il n'y a pas de sécurité sinon lui. Et il le recommandait en disant, voyez, prenez garde, et Jésus, j'ai dit ça génie à faire des jeux de mots, prenez garde au levain des pharisiens. Le levain, c'est bon ou c'est mauvais? Ah non, c'est de la pourriture, c'est du ferment. C'est pas bon. Et pourtant, ça fait lever le pain. Vous voyez, c'est quelque chose d'ambigu. C'est pourquoi, hein, avant la fête de la Pâque, hein, on commence le jour des azimes, hein, ben on fait ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on fait le tour de la maison pour voir s'il n'y a plus rien de fermenté. Et la poussière, c'est du ferment, c'est mauvais. Comme même tous les médicaments, là, ça va se ferment dehors. Alors, bon, comment on peut pas mettre tout ça dehors actuellement, parce que ça coûte cher quand même, les médicaments, qu'est-ce qu'on fait? On va les mettre au fond du jardin dans une cachette, en attendant que Pâques soit passé, et puis on les reprend. Et ça, c'est ce que Jésus appelle hypocrisie. Vous faites sans faire. C'est-à-dire que c'est l'intérieur qui doit changer, c'est pas l'extérieur. Peu importe qu'il y ait un peu de poussière, de plus ou de moins, c'est pas ça qui est important. Le peu de poussière ou le beaucoup de poussière, c'est ça que ça vous donne, c'est ce qui vous satisfait ou ne vous satisfait pas. Mais ça n'a rien à voir avec, dans votre union à Dieu, tout ça. Prenez garde au levain des pharisiens, c'est-à-dire ce qui vous fait mousser à la manière pharisienne, et au levain d'Hérode. Attention, hein. Hérode, ça fait mourir les gens, hein, ça a déjà fait mourir Jean-Baptiste, ça va pas. Mais le levain d'Hérode, ça veut dire l'orgueil, la domination, le pouvoir. Et les pharisiens, ça symbolise avoir raison, et calculer pour dire qu'on a raison. Et ils s'occupent pas, ils ont pas entendu ce que disait Jésus. Et ils réfléchissaient les uns avec les autres, mais nous n'avons pas de pain. Et, le sachant, il leur dit, mais pourquoi réfléchissez-vous à ce que vous n'avez pas de pain? Au pluriel, toujours, hein. Ne réalisez-vous pas encore? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous votre cœur endurci? Comment, vous êtes tellement bouché? Mais pas encore compris, hein. Pourtant, je vous ai parlé de moi que vous aviez comme nourriture, et que ça vous suffisait. Et vous vous ramenez tout à vous-même, tout le temps. Vous n'avez pas encore compris. Ayant des yeux, vous ne regardez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Vous ne vous souvenez pas. Allez. Lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000, combien de couffins plein de morceaux avez-vous enlevé? 12. Tout d'un coup, ils se souviennent. Lorsque j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000, combien de corbeilles de morceaux avez-vous enlevé? Ils lui disent, 7. Et il leur disait, ne comprenez-vous pas encore? Il nous le dit, hein. Il nous le dit. Mais vous êtes constamment là, en train de célébrer l'Eucharistie. Et vous dites dans cette Eucharistie, il n'y a que Dieu qui puisse vraiment me nourrir. C'est ça que vous dites quand même. Il n'y a que Dieu qui puisse vraiment nous rassasier. Il n'y a que Dieu qui puisse vraiment nous satisfaire. Et vous allez chercher ailleurs. Et vous vous demandez, mais pourquoi on n'a pas de pain? Pourquoi les boulangeries sont fermées? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de votre intérieur. et vous ramenez tout à l'extérieur, à la matérialité. Ne comprenez-vous pas encore? Est-ce que vous avez vraiment laissé tomber la parole en vous pour qu'elle devienne vie en vous? Et ils viennent à Bethsaïde. Et on lui amène un aveugle cette fois-ci. Ah, c'était un sourd muet qu'on lui avait amené. Maintenant, c'est un aveugle. Nous sommes sourds muets et il faut que la parole tombe en nous. Nous sommes aveugles et il faut que nous arrivions à regarder, c'est-à-dire à comprendre ce qui se passe. Et on le supplie de le toucher. On lui amène un aveugle et on le supplie de toucher cet aveugle. Et en poignant la main de l'aveugle, il l'emporta en dehors du village. Et ayant mis de la salive, bien de nouveau, sur ses yeux, lui ayant imposé les mains, il l'interrogeait. Est-ce que tu aperçois quelque chose? Levant le regard, il disait, j'aperçois les hommes comme des arbres, je les vois marcher. Il commence à s'imaginer les choses, et il a entendu parler d'hommes, il a entendu parler d'arbres, et il voit comme des arbres qui bougent.